micro est branché. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence qui porte un titre, très long. Quelle est la place de la science-fiction dans les revues de vulgarisation scientifique? Donc, pour m'accompagner ce soir, nous avons David Desfossé, qui est journaliste à Ciel et Espace. Nous avons Laurent Jeunefort, qui est auteur. Nous avons Sylvie Guéné, qui est également auteur, et Éric Pichol, qui est physicien et essayiste également. Donc voilà, les revues scientifiques sont quand même une presse qui est quand même assez diffuse et qui reprend pas mal d'idées, qui fait le transfert d'idées souvent entre les scientifiques et le grand public au travers de différents articles de vulgarisation. La science-fiction est un genre qui, originellement, s'appuie sur la science. L'intérêt de cette conférence, c'est de savoir s'il y a des liens entre les deux genres, au moins d'un certain point de vue des origines, qui est quand même le thème annuel des Utopiales, mais si c'est toujours un lien qui est fort entre ces deux genres décrits, l'un de vulgarisation purement scientifique et de l'autre la fiction qu'on développe au travers de l'imaginaire, mais aussi d'idées totalement concrètes. Je ne sais pas qui veut commencer par parler... Je ne sais pas, par exemple, David, toi qui es journaliste à Ciel et Espace, l'intérêt de la science-fiction pour toi donc,
Alors, d'abord, je suis un lecteur de science-fiction. Alors, effectivement, si la question est de savoir si la science-fiction peut être utilisée dans une revue de vulgarisation scientifique, alors j'ai bien cherché au départ, je me dis, évidemment, oui, bien sûr, ça tombe sous le sens. Et en réalité, en fouillant un peu dans la mémoire et dans les archives de Ciel et Espace, en l'occurrence, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. C'est-à-dire qu'il y a de la science-fiction dans Ciel et Espace depuis de nombreuses années, mais absolument pas de façon systématique. Et en réalité, ce n'est pas un outil, finalement, en tout cas dans notre revue, et je ne pense pas d'ailleurs dans nos autres revues scientifiques, pour faire passer de la science. Effectivement, c'était le projet, je crois, du Google Earth Back au début dans les années 20. Enfin, je crois qu'avant Amazing Stories, il avait fondé deux revues purement de vulgarisation scientifique. Je crois qu'il s'est un peu essayé d'ailleurs au récit scientifique. Ces romans, je les ai pas lus, ils n'étaient pas très bons, paraît-il. Mais en tout cas, la démarche était clairement utiliser le récit de science-fiction pour faire passer des idées, des concepts scientifiques. C'était vraiment son projet de base. Et je crois d'ailleurs que cette façon d'imaginer la science-fiction, c'est un peu perpétré jusqu'à peut-être Clark même, on peut dire, puisqu'en fait, il a peut-être un peu aussi utilisé ce genre de méthode.
Oui, et puis dans Astounding et Amazing, je ne sais pas, mais Astounding, il y avait des articles scientifiques et qu'on retrouve dans Bifrost avec des articles de Roland Lehoucq qui fait de la prospective ou même de l'explication scientifique de phénomènes qui peuvent être scientifiques ou SF d'ailleurs.
Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui si on a un lien science-science-fiction fort dans une revue de façon permanente, c'est dans Bifrost, mais Bifrost est une revue de science-fiction
littéraire
dans laquelle effectivement Roland Lehoucq assume la position du scientifique et fait ce lien-là. Dans l'autre sens, ça n'est pas le cas. Et effectivement, la science-fiction est marginale. Alors, elle est présente parce qu'on est des lecteurs de science-fiction, parce qu'on aime ça, mais elle passe un peu en contrebande d'une certaine manière dans les revues de vulgarisation scientifique.
Pour faire part un peu de mon expérience de lecteur, moi j'ai commencé à lire de la science-fiction à peu près à la même période où j'ai lu des revues de vulgarisation. À l'époque, c'était Science et Vie. Et même un peu de la recherche à l'époque où c'était pas à peine vulgarisé, c'était vraiment des articles très très sérieux sans images, donc je comprenais rien du tout, mais je sentais il y avait le langage de la science et qui euh, moi qui était déjà un vecteur de ce qui était en soi du sense of wonder, quelque part. Je me laissais bercer par cet univers scientifique. Et donc, il y avait déjà la passerelle de l'émotion, et il y avait un peu de cette émotion qui passait dans la littérature de vulgarisation.
D'accord.
Et après, je m'en suis détaché. Mais alors, après, alors, Science et Vie, j'ai eu une sorte de contentieux avec eux, de lecteurs, hein, j'entends, hein, puisque ils voulaient absolument pas entendre parler de science-fiction. Ils ne chroniquaient aucun livre de science-fiction. Par contre, leur une et les accroches étaient vraiment des accroches de SF. Et cette façon de jouer sur les deux tableaux m'énervait un peu. Et donc, je me suis un peu éloigné de cette revue pour lire essentiellement pour la science. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et puis, la recherche jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, quand ils ont refondu leur truc et ça ne correspondait plus du tout à ce que j'attendais. Mais ça a été une revue, pour moi, qui a compté beaucoup et qui complétait très bien la vision américaine de la science pour la science. Et là, c'est une vision européenne. Et donc, c'était intéressant. Et en plus, dans la recherche, il y avait Michel Pébreau qui chroniquait des livres de SF et on sentait qu'on avait affaire à un passionné. Donc là, il y avait une passerelle.
Mais justement, en parlant des unes, par exemple, de science-fiction, les unes des magazines de vulgarisation scientifique, l'utilisation systématique de... non pas de poncifs de science-fiction, mais de grands thèmes de science-fiction, n'amène-t-il pas le lecteur à vouloir s'intéresser, à toucher une frange justement de lecteurs de fiction, à s'amener directement à des sujets purement scientifiques et à s'intéresser à des articles purement scientifiques. Je pense par exemple à Ciel et Espace, le fait par exemple d'avoir recours à des illustrations ou à des titres d'accroche qui ne sont pas tirés de romans de science-fiction, mais qui amènent un imaginaire profond. Est-ce que ça n'aide pas à ramener une frange du public qu'on n'aurait pas atteinte en termes de passation, justement, de savoir et d'avancée scientifique au niveau de la recherche, par exemple?
On pourrait l'espérer, et en réalité, c'est pas si évident. Par exemple, il y a quelques années, Ciel et Espace avait consacré un hors-série entier à la science-fiction, qu'on avait intitulé L'autre façon d'explorer l'univers, et on avait vraiment fait le pari pour une revue scientifique, je ne pense pas que ça se soit fait souvent, de publier des auteurs de science-fiction, d'ailleurs notamment Laurent Genefort, je me souviens très bien, de publier des analyses, une excellente analyse de Gérard Klein, dont j'ai encore le grand souvenir. Et donc c'était vraiment effectivement cette idée, c'était on va faire un hors-série de science-fiction, vraiment, sur la thématique de l'astronomie, de l'astrophysique, de l'espace, qui est la thématique que l'on traite. Et on va se faire plaisir, déjà, c'était le but initial. Et en plus, on va certainement élargir notre lectorat, puisqu'on va à la fois intéresser les gens, nos lecteurs traditionnels, qui sont donc les lecteurs de science, et les lecteurs de science-fiction. Et ben, en réalité, ça n'a pas si bien marché que ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas mécontents de ce hors-série. Il avait plutôt une bonne réputation, mais en tout cas, au niveau des lecteurs et des ventes, hein, pour parler très clairement, ça n'a pas du tout été à la hauteur des espérances. Alors, il y a plusieurs explications. Une, sans doute, est que il faut bien comprendre qu'une partie du lectorat de la vulgarisation scientifique est encore rétive. Une partie seulement, évidemment, c'est pas du tout l'essentiel, mais une partie est encore rétive, finalement. Et quand vous prononcez le mot « science-fiction », il y a un petit mouvement de recul. On a encore fait l'expérience il y a une semaine. Il y a une semaine à Paris, Ciel Espace organisait un grand salon de l'astronomie à la Cité des Sciences là pendant 3 jours. Et donc les conférences étaient évidemment des conférences scientifiques. Et puis il devait y avoir une conférence d'Étienne Klein qui s'est décommandée à la dernière minute. Et comme Roland Loup, qui est administrateur de l'Association française d'astronomie et qu'il a vraiment accepté de nous rendre service, il est venu faire une conférence vraiment extraordinaire, parce que c'est un excellent conférencier, sur à quoi ressemblent les extraterrestres. Donc avec cette façon de parler de science en utilisant la science-fiction. Donc super. Et bien quand même, j'ai eu au moins une personne qui m'a dit... C'est quoi ? C'est la science-fiction ? Alors, il a fallu que j'explique que c'était, oui, mais que c'était une démarche vraiment très originale, que ça valait vraiment le coup d'être entendu, que Roland Look était passionnant. Mais tout ça pour dire que c'était, ça, voilà, ça ne coulait pas de source. Et donc, il y a une partie quand même des lecteurs pour lesquels, finalement, la science-fiction, c'est plutôt un repoussoir. Donc, quand on parle de science-fiction vraiment pour la science-fiction dans les revues de vulgarisation scientifique, à ciel espace, on le fait, encore une fois, je parle de contrebande, c'est-à-dire qu'on le fait parce que, bon, on dit à nos lecteurs, faites-nous confiance, c'est vraiment intéressant, regardez ça. Il y a une partie qui est déjà conquise, évidemment, hein, mais il y a une partie qui reste à convaincre.
Oui, Sylvie.
Ça me donne envie d'essayer de me lancer dans des explications, un peu, dans des idées un peu compliquées, j'espère que je vais être claire. Mais je pense qu'il doit y avoir différents types d'attentes quand on lit de la vulgarisation scientifique et que ça dépend de la représentation qu'on a de la science. C'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir, en tout cas c'est ce que j'ai vu autour de moi, une partie des gens qui considèrent la science comme quelque chose de très dogmatique, définitif, stable et dont le but est d'en savoir plus et qui ont un rapport à la science qui... ils ont des attentes de vérité de la science et de vérité de ce qu'on leur exprime. Ils veulent du solide, du dur, du certain. Ceux-là ne seront sans doute pas très réceptifs au sense of wonder et à l'émerveillement scientifique. Mais quand on est un chercheur ou quand on est un scientifique un petit peu formé à l'épistémologie, je ne pense pas que Eric me contredira complètement là-dessus, on sait que la science, par nature, est quelque chose qui est stable à un moment donné, qu'on parle dans l'état actuel de la science, que la science se bâtit sur des lois et des modèles qui sont réfutables, c'est-à-dire que si c'est quelque chose d'incontestable, alors ça n'est pas quelque chose de scientifique. Et je vois que quand j'essaie d'expliquer ce genre de choses à mes étudiants, c'est très difficile à faire passer. C'est très difficile de parler de science en expliquant que, justement, contrairement à la religion, aux croyances et à tout un tas de certitudes que l'on peut porter avec nous, la science se définit comme quelque chose qui s'autorise à être remis en question. Et une des manières, peut-être, d'expliquer ça très indirectement, c'est de montrer qu'on a le droit de jouer avec la science, qu'on a le droit de la déformer, qu'on a le droit de tricher un peu, qu'on a le droit de l'étendre, d'inventer des modèles qui dérivent des modèles sur lesquels travaillent les chercheurs, mais qui sont un peu à côté quand même. Et puis on triche ouvertement, c'est-à-dire que tout lecteur qui lit de la science-fiction, il sait bien qu'il n'est pas en train de lire un truc qui est complètement vrai, sinon on n'appellerait pas ça de la science-fiction, et sinon ce serait peut-être pas aussi... on ne s'attendrait pas à être surpris parce qu'on serait dans le vrai monde. Donc ils sont prêts à jouer le jeu, mais... En acceptant de jouer ce jeu, ils acceptent aussi l'idée que la science, c'est pas quelque chose de figé, de définitif et de certain, ce qui aurait un côté totalitaire et terrifiant. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui adorent jouer avec la science pour lui faire... Il y a des formules célèbres à ce sujet, mais pour lui faire des enfants illégitimes. On a le droit de faire des bâtards à la science à condition qu'il soit beau. J'ai eu l'occasion. Il m'est arrivé d'être publié dans des revues de vulgarisation scientifique, dans Comment ça marche, par exemple. Alors, ce n'était pas des textes écrits pour la revue, c'était des textes qui existaient déjà et qui les avaient intéressés, qui ne s'intégraient pas en plus dans des dossiers thématiques liés à la question dont traitait la nouvelle. Mais de mon point de vue, je me trompe peut-être, et tu nous diras si c'est complètement stupide comme argument. J'ai inventé ce type de justification.
Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui,
enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Sylvie, donc je vais prendre presque le point de vue complémentaire. Donc effectivement, il y a mille et une façons de s'intéresser à la science, et il y a mille et un rapports individuels à la science. Il y a aussi mille et une façons de communiquer, il y a mille et une façons de choisir son public, et de s'intéresser, d'établir un rapport avec. Donc il y a autant de façons de communiquer la science et de communiquer les idées scientifiques ou de communiquer des idées relatives à la science-fiction qu'il y a de journalistes probablement, qu'il y a de communication de façon générale. Il y a autant de façons de les recevoir qu'il y a de lecteurs et probablement même beaucoup plus parce que le même lecteur à différents moments de la journée, à différents moments de sa vie sera des degrés de réceptivité différents et aura envie de choses complètement différentes. Donc on n'a pas de, je ne crois pas qu'il y ait de règle générale et que le titre de la table ronde me déroute un petit peu. Il n'y a pas de rapport général. Je ne pense pas qu'on puisse aboutir à des conclusions définitives. Ce qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'il existe toutes sortes de stratégies de communication possibles de la science et de la science-fiction. Il y a des, on peut jouer en science-fiction avec des publics complètement différents. Le même auteur peut faire un texte de hard science qui va toucher une toute petite frange de son public, ou au contraire un texte qui s'adresse au très très grand public. Les règles du jeu seront pas tout à fait les mêmes, mais presque. Pour reprendre le terme de Sylvie, on trichera de façon peut-être plus subtile avec les uns qu'avec les autres, parce qu'on peut tricher avec un lecteur qui connaît déjà bien la science-fiction. On peut tricher et lui laisser la charge de repérer la tricherie. Avec un débutant, c'est un petit peu plus déloyal que de tricher trop sensiblement. Donc la façon de communiquer dépend de ce qu'on veut faire, dépend de la réception. Et si on revient à la remarque de David, je crois que la question qui se pose pour une revue, c'est un pari. Il s'agit de trouver ses lecteurs, de décider à un moment ou à un autre de s'adresser à une portion particulière du public, y compris de son public, puisque une revue comme C'est l'espace, dont on pourrait croire que c'est la revue la plus homogène qui soit. C'est une revue bien ciblée qui s'adresse à un public de passionnés d'espace qui ont tous ça en commun, qui ont probablement pour la plupart, sinon une formation scientifique, du moins un intérêt pour la science. Il est sans doute rare d'avoir un public en or aussi bien ciblé. Et malgré tout, ce public-là présente, d'après ce que tu nous dis, des contradictions internes, en tout cas des nuances quasiment opposées dans leur rapport. Pour les uns à la science-fiction, pour les autres à la science, j'imagine qu'on trouverait des tensions du même genre sur la politique spatiale ou sur pas mal d'autres choses. Bah donc, une revue, c'est un objet humain, c'est une entreprise commerciale. Il y a un rédacteur en chef qui décide à un moment ou à un autre de faire une revue pour telle ou telle partie du lectorat et de faire la meilleure revue possible qu'il peut pour intéresser ce lectorat-là. Ça passe, ça marche bien pour certaines revues, et je suis aussi un vieil amoureux de Ciel et Espace, mais ça passe forcément aussi par des abandons, et choisir de s'adresser à une portion du public, c'est choisir de ne pas s'adresser forcément à d'autres sections, et mis à part applaudir les rédacteurs en chef qui, dans le contexte actuel, qui n'est pas très favorable ni aux revues, ni à la science-fiction, ni à la science, arrivent malgré tout à faire des revues de qualité, chapeau. Je ne vois pas d'autre conclusion dans l'immédiat que de dire bravo et continuer à faire des bonnes revues. Mais chapeau, mais je ne crois pas qu'il y ait de recette.
Non, c'est, je sais pas si tu...
Je ne sais pas si je dois remercier. Je voulais quand même ajouter, il y a aussi quand même, il y a un autre facteur qui joue dans le fait que finalement la littérature de science-fiction n'est pas aussi présente qu'on pourrait l'imaginer dans les revues de vulgarisation. C'est une question toute bête, pratique, c'est une question de format, tout bêtement. C'est-à-dire que quand on demande, et moi c'est toujours un crève-cœur quand je contacte Laurent Genefort et je lui dis vraiment on aimerait bien passer une nouvelle originale dans Ciel et Espace, et qu'on annonce ensuite le calibrage qu'on peut octroyer, c'est toujours terrible. C'est-à-dire qu'on a des formats effectivement qui font qu'on peut pas... peut-être qu'on pourrait, mais enfin disons qu'on ne peut pas passer 12 pages de nouvelles, ou alors vraiment dans un cadre exceptionnel comme hors-série, on l'a déjà fait, mais dans le cadre d'un hors-série, dans le cadre du mensuel, c'est difficile. Alors ça évidemment, ça limite beaucoup les choses, parce que c'est difficile de demander à un auteur de développer une histoire intéressante, avec de la science dedans, avec des tas d'histoires, des rebondissements et des choses de passionnantes en 4 pages, en 40 000 signes, s'il faut parler en signes. Donc ça c'est aussi un aspect qui est difficile. En 2006, quand on avait fait notre hors-série sur la science-fiction, donc là on avait laissé un peu plus de place aux auteurs, mais je me souviens que tout le monde était un peu à l'étroit. Je me souviens de Serge Lehmann qui m'avait demandé et effectivement on avait fait, parce que comme la nouvelle était vraiment très très bien, d'ailleurs elle a eu le prix Rognier en 2006, d'ailleurs c'est Origami que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas fait, donc finalement aucun regret évidemment, mais c'est vrai que nous ça ne nous met pas tellement à l'aise de devoir demander à des auteurs de se restreindre, et je pense que Laurent aura des choses à dire à ce propos.
Je voulais poser d'ailleurs la question, comment ça se passe du fait d'écrire justement dans une revue purement dédiée à la science, à la vulgarisation scientifique, comment ça se passe quand on écrit pour le public qui vit de la vulgarisation scientifique ?
Je ne me suis pas posé la question, sincèrement. Le fait d'être dans un cadre précis Moi, ça m'a facilité les choses parce que je savais intuitivement quoi faire. D'abord parce que je suis lecteur de revues de vulgarisation scientifique, donc intuitivement, je sais, j'ai réalisé en tant que lecteur en fait, tout bêtement. J'ai fait qu'est-ce que j'aimerais lire dans ce cadre-là. Ben voilà, j'avais jamais eu l'occasion de faire une nouvelle qui soit. Alors, je parle de la deuxième. Hein, je parle de la. Je me rappelle plus du titre. Voilà. La deuxième. Je ne m'en rappelle plus, mais enfin, je pense plutôt à celle-là parce qu'Apparenta, elle est un peu. Elle s'inscrivait dans un univers déjà d'Omal. Pour le coup, j'étais pas très très content de moi a posteriori parce que justement, le cadre était peut-être trop content d'avoir pris un univers préexistant. C'était pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, la deuxième, là pour le coup, j'ai atteint mon but. C'est-à-dire que j'ai fait une vraie nouvelle de Hard Science où j'ai été. Où j'ai pu communiquer avec des scientifiques, où ça a été un échange fécond. Ça s'est parfaitement déroulé. Pour moi, ça a été une expérience, l'expérience idéale. J'ai pu faire, parce que j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir faire de la vraie hard science, et c'était une occasion en or, en fait. Donc, non, au contraire, moi, j'ai été, j'ai pas eu de, spécialement de difficultés. Quand j'ai soumis l'idée, elle a été tout de suite adoptée. Non, pour moi, ça a été, ça s'est passé sur des roulettes, quoi. J'ai pas vraiment de. Cette histoire n'a pas d'histoire parce qu'elle s'est bien passée. Ouais.
Je voulais juste te dire que ce dont discutent Laurent et David, c'est des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire un numéro spécial avec des vraies nouvelles qui ont une vraie longueur dedans. Non, pas pour celui-là.
Pas pour la deuxième nouvelle, elle a été publiée dans le
d'accord.
mensuel. Oui.
Parce que en tant qu'auteur et bien qu'auteur de nouvelles courtes, quand on vous demande d'écrire dans un format entre 20 000 et 40 000 signes pour parler cuisine, bon, enfin, ça fait vraiment pas beaucoup de pages. C'est un défi extrêmement difficile, surtout si on veut à la fois mettre un peu de science et en même temps raconter une histoire qui provoque un minimum d'émerveillement, de curiosité. C'est vraiment un faisceau de contraintes qui est très très difficile à gérer pour l'auteur.
Mais justement, au niveau de la. Si l'émerveillement et la curiosité vient par exemple du texte, ne pense-t-on pas que la science-fiction amène plutôt des lecteurs à s'intéresser à la réalité des faits et du coup à la vulgarisation scientifique? Et que du coup, la science-fiction ramène quand même une partie d'un lectorat, je pense aux lecteurs d'Art Science, par exemple, qui, en découvrant des romans de science-fiction, s'intéressent du coup aux idées qui étaient développées dans ce roman et s'intéressent du coup aux revues scientifiques de vulgarisation.
Moi, je pense que oui. Si on entend ce que Laurent Genefort vient de dire, qu'il s'est intéressé à la fois aux revues de vulgarisation et à la littérature de science-fiction en même temps, moi, c'est mon cas aussi. J'ai commencé à lire beaucoup de science-fiction au moment où j'ai commencé à lire des vraies revues de vulgarisation. La science m'intéressait évidemment déjà, mais voilà. Donc, je pense qu'effectivement, souvent, il y a heureusement une confluence, une convergence entre ces deux intérêts. Et on peut nourrir un intérêt pour la science à travers la science-fiction. Et je pense à tous les gens qui ont été traumatisés. Il y avait Cédric Vianney ce matin, qui ont été traumatisés par les mathématiques, qui auraient voulu faire de la science, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et puis finalement, on peut continuer à nourrir un intérêt pour la science à travers la science-fiction, qui est une littérature magnifique, évidemment.
Moi, je trouve qu'en plus, depuis une quinzaine d'années, la science est devenue très spéculative, plus spéculative qu'avant, moi je trouve. Enfin, c'est oui, la physique en tout cas.
La physique quantique en particulier.
Oui, puis même l'astrophysique simplement en listant des exoplanètes, elle induit de la fiction, moi je trouve. Peut-être plus qu'avant. Et en même temps, je trouve qu'il y a eu une certaine SF qui est devenue une certaine hard SF est devenue très hard SF quand on lit. Il n'y a pas d'équivalent ancien d'un Egan ou même d'un Beer quand on compare avec du Clark. C'est plus abstrait, c'est plus je trouve qu'il y a eu c'est ma perception, hein. Je trouve qu'il y a eu une convergence aussi où une certaine SF est devenue très scientifique et enfin très spéculative, et la science de l'autre côté est devenue aussi via effectivement la théorie des cordes, les univers multiples induits par la, enfin qui sont traités par des scientifiques, est devenue très spéculative, quoi.
Je suis j'aurais tendance à avoir le sentiment à peu près opposé. En
ah
fait.
D'accord. Intéressant.
Entièrement d'accord, bien sûr, sur le fait que Egan est particulier, enfin Egan, Baxter, il y a un nouveau courant qui fait des choses qui n'ont jamais été faites. Il y a effectivement un courant très original qui, depuis une quinzaine d'années peut-être maintenant, fait des choses qui n'ont jamais été tentées. Mais d'une part, je trouve que ça vient très tard, et d'autre part, je ne suis pas du tout d'accord avec ta caractérisation de la physique comme très spéculative. Pour moi, il ne s'est rien passé en physique depuis les années 30. Le XXe siècle a connu deux chocs majeurs qui sont les deux théories de la relativité, restreinte et générale, puis la mécanique quantique. Le gros de la mécanique quantique était bouclé en 27. Toute la théorie quantique de la mesure, il y avait quelques détails à boucler un petit peu. Il fallait intégrer un petit peu l'électromagnétisme là-dedans. Il a fallu attendre l'électrodynamique quantique dans les années 50. Puis encore un petit peu plus pour la physique nucléaire, mais dans les années 50-60, c'était bouclé. Pour moi, il y a un choc majeur, c'est deux chocs, mais qui sont tous les deux antérieurs aux années 30. Et depuis,
ça que je voulais dire. Je voulais dire que dans le temps, les scientifiques et les journalistes scientifiques ne voulaient pas entendre parler des univers multiples. Ça ne pouvait pas être mentionné dans un article. Alors que
Schrödinger se pose ce genre de questions, c'est plus dans des livres que dans des articles, mais c'est des questions qui étaient posées dans les années 30, c'est des questions d'interprétation.
J'ai pas l'impression que c'était un thème, mais encore une fois, c'est de la perception perso. De la même manière, se poser la question de la vie extraterrestre, qui est maintenant quasiment une partie de la littérature scientifique maintenant. C'est quelque chose j'ai l'impression que les scientifiques s'autorisent des trucs.
Je crois qu'il faut distinguer. Non,
s'autorisent des spéculations.
On a découvert plein d'exoplanètes aussi depuis. Donc
oui, bien sûr. Mais
statistiquement, les probabilités sont différentes.
C'est une possibilité. Alors qu'avant, c'était une simple vue de l'esprit.
Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les idées et la recevabilité des idées. Et d'autre part, les puissances sociologiques dominantes au sein de la science. L'histoire de la relativité, celle de la mécanique quantique, je les mets tout à fait sur le même plan au point de vue de l'originalité et de la puissance des idées développées. Leur histoire en termes de communication n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que Einstein était ravi qu'on joue avec ses idées. On connaît tous les images d'Einstein tirant la langue, mais il était ravi de jouer avec des auteurs de science-fiction éventuellement, même si c'était pas comme ça que ça se disait à l'époque. Il était ravi de laisser raconter des bêtises, de faire de la vulgarisation.
Comme Hawking maintenant, oui.
Comme Hawking maintenant. Enfin, pour lui, l'important était que ses idées passent. Et même si on ne retenait qu'un tout petit bout d'idées nouvelles dans un fatras invraisemblable de choses à demi comprises, c'était toujours mieux que de ne rien comprendre. Donc la stratégie de communication d'Einstein était extrêmement ouverte. Et tout le monde s'est mis à jouer avec la relativité, y compris, bien sûr, la vulgarisation, qui en a parlé très très tôt, y compris les philosophes. Je pense à Bergson, qui sort La durée en 1910. C'est aussi un ramassis d'âneries. Bergson n'a rien compris à la relativité dans cet ouvrage. N'empêche qu'il, non seulement il le publie, mais il le publie encouragé par Einstein. Et bien sûr, les auteurs de science-fiction. La science-fiction, c'est approprier ces idées qui sont, au moins pour la relativité générale, beaucoup plus compliquées que les idées quantiques de base. La relativité générale, c'est vraiment du dur, c'est vraiment du subtil. Et la science-fiction a joué avec très très tôt. Dans les années 20, on trouve des textes qui jouent avec ça. Pour moi, ça, c'est très largement lié à la posture d'Einstein lui-même, qui est très ouvert à ce genre de choses et qui encourage ce genre de choses. On a le processus rigoureusement inverse pour la mécanique quantique. On a au départ, dans les années 20, à peu près la même chose. C'est les mêmes physiciens. Einstein est tout à fait dans le jeu quantique dans les années 20. Il est l'un des contributeurs de ces idées. On a De Broglie qui fait le même genre de choses. On a Schrödinger qui est... Donc des gens qui sont très, très ouverts. Et puis, on a un petit groupe de théoriciens, de physiciens mathématiciens très fondamentalistes, très homogènes culturellement. Ce sont essentiellement des gens qui tournent autour de l'Allemagne du Nord ou du Danemark. Heisenberg, Borg et quelques autres, qui ont choisi une stratégie de communication complètement différente, qui ont développé leur théorie. Il y avait des théories alternatives, il y a d'autres façons de faire de la mécanique quantique que la façon de Bohr et Heisenberg, ne serait-ce que celle d'Einstein et de Broglie. mais celle de Bohr et Heisenberg, ce qu'on appelle l'école de Copenhague, est la plus efficace, il n'y a aucun doute là-dessus. Tellement efficace que ce petit groupe de quelques individus ou de douzaines d'individus a réussi à révolutionner tout seul la physique. Ils n'avaient besoin de personne d'autre, ils n'avaient pas besoin du reste de la communauté scientifique, et qu'ils étaient dans une logique de fermeture, quasiment sectaire. Bohr arrive quand même à dire « Ne vous exprimez jamais plus clairement que vous ne pensez ». La position de base de l'école de Copenhague, c'est le langage naturel est incapable de décrire le monde. On n'a pas le droit de parler au moins du monde microphysique en langage naturel. Le seul langage recevable, c'est les mathématiques. Donc allez faire d'abord 5 ou 6 ans de maths, et puis on en reparle. Quand vous serez capable de maîtriser nos formalismes, nos équations, vous aurez le droit de discuter avec nous. Et ça a été c'est une question d'interprétation métaphysique. Il y a une vision du monde spécifique à Copenhague, mais aussi de gestion de la communication. Et ça, cette école de Copenhague, a été ultra dominante, orthodoxe, de 1927, en gros jusqu'aux années 80. Elle n'était pas la seule. Einstein et consorts continuaient à travailler, mais ils étaient rigoureusement inaudibles. Pour de bonnes raisons. L'histoire de la mécanique quantique est une histoire formidable. C'est une série de triomphes scientifiques. Ce petit groupe de gens, cette petite école, a réussi quelque chose peut-être d'unique dans l'histoire des sciences. Mais ils ont stérilisé le débat à tout point de vue, mais y compris au sein de la communauté scientifique. La science-fiction qui jouait avec la relativité n'a pas joué avec la mécanique quantique, mais les physiciens appliqués, qui pourtant étaient des professionnels de la science et qui pouvaient, eux, avoir les outils, n'ont pas non plus joué avec la mécanique quantique. Les premières applications de la mécanique quantique, c'est les années 60. L'inventeur du laser, Charles Townes, dit lui-même que le laser a 30 ans de retard. On avait tous les éléments pour inventer le laser dans les années 20, à la fin des années 20, mais ça aurait voulu dire que quelqu'un qui n'était pas un spécialiste de physique quantique pouvait, un simple ingénieur pouvait faire des choses qui relevaient des applications de physique quantique. Donc s'approprier cet outil pour faire des choses par lui-même, en dehors de l'interprétation de Copenhague. Et ça, c'était pas recevable. Donc il y a eu une stérilisation totale, mais de l'ensemble du champ intellectuel, y compris la physique appliquée, y compris la vulgarisation, y compris la science-fiction, et cet étau et cette orthodoxie de Copenhague s'est progressivement relâché pour tout un tas de raisons à partir de 80, et à ce moment-là, on a vu des tas de gens s'approprier ces idées-là, et aussi bien dans le domaine des applications, on se souvient des premières images d'atomes, par exemple. Quand j'étais étudiant, on se demandait est-ce que les atomes existent.
Enfin, IBM,
tout à fait. Il y a des ingénieurs d'IBM qui se sont amusés à la question est-ce que les atomes existent, ont sorti une réponse visuelle. Ils ont manipulé les atomes un par un et ils ont reproduit le sigle IBM, atome par atome, sur
une plaque de je ne sais plus quel métal.
Je crois que c'est
du zinc, non?
C'était des atomes de xénon du nickel, enfin peu importe. Mais effectivement, l'intérêt scientifique de cette manip était nul. Le choc communicationnel était énorme. La question, est-ce qu'on peut parler de ça autrement qu'avec des maths, ne se pose plus. Est-ce que les atomes existent? La question ne se pose plus. On les voit. Ça pose des tas de problèmes philosophiques. Est-ce que le fait de voir une reconstruction par ordinateur, c'est vraiment voir, ça reste discutable. Mais le simple fait de publier ça à la une des journaux, et ça fait le tour du monde... change complètement le rapport à la physique quantique, justement. Et cette libération-là, en gros, je crois que les manips d'Alain Aspect qui ont commencé à déstabiliser un peu les choses, ça doit être 81. Cette image, ça doit être 91. Donc, au cours de cette décennie-là, les choses ont complètement changé. Et cette libération-là a permis la libération de la parole, en particulier des auteurs de science-fiction. Mais j'inscrirais la science-fiction vraiment dans un panorama beaucoup plus large de stérilisation du champ intellectuel dans le cadre de la mécanique quantique. Et pas d'absence de spéculation, parce qu'il y avait des spéculations dans d'autres domaines. Je ne suis pas sûr qu'elles soient plus riches aujourd'hui que...
Mais d'un autre côté, Eric,
plus riches, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est que moi, en tant que lecteur, ça m'est apparu, du coup, c'est un effet sûrement de ce que tu dis, ça m'est apparu plus... justement, plus riche, parce que justement, la communication passait, visiblement. Et donc, la science paraissait du coup
plus accessible.
Ouais, plus accessible, et puis plus du coup plus riche aussi, quoi.
Moi, ça me trouble d'écouter Eric, parce que ça pose quand même des questions sur L'aspect jusqu'où est-ce qu'on a le droit de trahir la science et de lui faire dire autre chose que ce qu'elle est en train de dire. La théorie de la relativité, à ma connaissance, elle fonctionne à tous les niveaux, elle concerne tous les types de structures qui existent, à tous les niveaux d'organisation moléculaire, si l'on peut dire. Je ne suis pas physicienne, mais pour ce que j'en sais, la physique quantique est quand même une physique qui ne remet pas en cause la physique mécanique traditionnelle et qui s'applique au niveau des particules et dont il nous est répété de manière extrêmement claire que ce qui existe au niveau des particules n'est pas transposable à une autre échelle et à des organismes d'une plus grande complexité, c'est-à-dire les particules ont peut-être une probabilité de vie, mais nous, on est vraiment là quand même. Et alors après, en tant qu'auteur, on veut bien jouer avec des idées, mais on a vraiment l'impression de bluffer et de détourner la théorie scientifique qui est autre chose que de simplement l'élargir un peu, lui donner un peu plus de puissance. On n'ose plus parce qu'on nous a tellement clairement expliqué que ça ne fonctionnait pas pareil à notre niveau, que les surfaces solides étaient effectivement vraiment solides dans notre monde, mais que c'était des probabilités de particules qui ne se touchaient pas au niveau des particules. Mais ce n'est pas gênant, ce n'est pas le même univers. On nous l'a tellement dit que moi, en tant qu'auteur, je me sens complètement incapable d'imaginer une histoire sympathique et intéressante dans laquelle il n'y a que des particules. Je ne sais pas quoi leur faire faire. Donc après, qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant qu'auteur de SF et qu'on se réclame éventuellement de la hard science? Je vais dire une horreur, mais pour moi, il est un peu plus facile d'écrire des nouvelles dans un domaine que je connais vaguement que dans un domaine que je connais très bien. Ceci dit, si on est un peu sérieux, on essaie de se tenir au courant de ce qu'on a le droit de faire et jusqu'où on a le droit d'aller sans que ce soit trop horrible aux yeux d'un scientifique. Est-ce qu'il n'y a pas une différence?
Alors d'abord, je vais demander à notre modérateur de m'interrompre si je verse dans le cours,
oui,
de physique,
non,
parce que je ne voudrais pas...
Bref, je ne t'interromps.
Oui, j'ai essayé d'être bref. D'abord, deux choses en réponse. Je ne suis pas du tout en accord non plus avec les présupposés de Sylvie. D'une part, il n'y a pas de solution de continuité entre le monde microphysique et le monde macrophysique. On a eu, il y a quelques jours seulement, un prix Nobel français superbe de Serge Haroche. Le travail de Serge Haroche, ça consiste justement à regarder comment des objets, sinon macroscopiques, en tout cas de taille finie, oublient leurs propriétés quantiques. Et simplement, l'idée d'Haroche, c'est qu'un objet tout seul dans l'univers, il a des propriétés quantiques parfaitement propres et parfaitement durables. Un objet qui n'est pas tout seul dans l'univers, et la plupart ne le sont pas, interagit avec son environnement, il y a du bruit, il y a des tas d'échanges, et il perd progressivement sa cohérence.
Je disais ça pour la relativité, hein, pas pour la physique quantique.
Il n'y a pas de solution de continuité en relativité, il n'y a pas de solution de continuité en mécanique quantique. On a simplement des choses qu'on est capable de dire. On est capable de discuter avec des atomes ou pas, on est capable d'aller voir ce qui se passe à des échelles cosmologiques ou pas. Souvent, malheureusement, non, mais il n'y a pas d'interdiction de principe de faire ce genre de choses. Mais plus fondamental, je crois, tu dis que la mécanique quantique ne remet pas en cause la mécanique, c'est absolument vrai. La mécanique quantique ne remet pas en cause la physique newtonienne et la physique habituelle. Ce qu'elle remet en cause, c'est nos habitudes de pensée. Penser la physique newtonienne, en général, ça, on va penser en termes de vitesse, on va penser en termes de position, on va penser en termes de trajectoire. Et ben, ces outils conceptuels-là, qui sont très profondément intégrés dans notre langage, c'est pas seulement une vision du monde, c'est pas seulement de la physique, c'est l'usage même de la langue naturelle qui fait appel à des concepts de ce genre. La mécanique quantique nous dit que ça, c'est pas forcément autorisé, que tous les résultats de la mécanique restent parfaitement valides, toutes les formulations de la mécanique quantique un peu paresseuses qui reposent sur des concepts qui sont pas forcément aussi étayés qu'on voudrait, elles peuvent être douteuses. Or, la mécanique quantique, c'est fondamentalement une théorie de la mesure. On s'interdit de parler de choses qu'on n'est pas capable de mesurer. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer à la fois la vitesse et la position d'objets. Alors, la mécanique, on ne peut pas mesurer à la fois le nombre d'objets, dans une onde par exemple, le nombre de photons, et la phase de ces photons. C'est pas un drame. Le miracle de la mécanique quantique, c'est que si on choisit les variables dont on parle, on est capable de tout dire quand même. On peut décrire intégralement le monde en termes de vitesse sans jamais parler de position. ou en termes de position sans jamais parler de vitesse, ou en termes de nombre de particules sans jamais parler de phase, ou en termes de phase sans jamais parler de nombre de particules. C'est une gymnastique intellectuelle qui est très contraignante, mais qui n'est pas très difficile. Si on l'a fait dans le langage des mathématiques, effectivement, si on formalise ce qu'on fait, c'est une habitude à prendre, c'est des techniques qui sont relativement simples. Si on cherche à ramener ça dans le langage naturel, s'interdire de penser en termes de nombre d'objets, par exemple, c'est terrible. Le réflexe du raconteur d'histoire, c'est je prends un objet, je prends un petit électron, je prends mon petit personnage et je vais regarder ce qui lui arrive.
J'en fais un gros tas.
Oui, mais je prends un du point de vue de la mécanique quantique, c'est j'ai compté.
Non, mais c'est super pratique. Si tu as une princesse à sauver, puis que en haut de la tour, si simultanément elle est en bas de la tour, tu prends celle qui est en bas de la tour. Quoi. C'est
clair. La téléportation.
En fait, c'est vachement. On est bien idiot de pas utiliser la mécanique quantique, quoi. Pour nos histoires, sincèrement. Bon, les histoires sont beaucoup plus courtes, mais.
C'est pas ce qu'on appelle le Deus ex machina quelquefois.
Et donc la difficulté, pour finir là-dessus, c'est la difficulté liée à la mécanique quantique, c'est effectivement une difficulté liée au langage, si on veut faire les choses rigoureusement. Et la mécanique quantique a bien sûr eu des retombées en physique très fondamentales, mais aussi en linguistique. La linguistique moderne est très largement liée de l'analyse de ces problèmes par le cercle de Vienne, par des gens qui ont reconsidéré ces choses.
Tu pensais à Wittgenstein.
Je pensais à Wittgenstein, par exemple. Mais, enfin, au second Wittgenstein, le premier est un peu intérieur. Mais oui, enfin, la boîte à outils de l'écrivain, quand il veut raconter des histoires quantiques, est singulièrement restreinte. Donc il y a un travail sur la langue, qui est sur la langue et sur la narration. Qu'est-ce qu'un personnage dans une histoire qui se veut quantique, quel observateur, la question de l'observateur, la question de celui qui fait la mesure, est centrale en physique quantique. Quel observateur dans un roman? Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est le narrateur? C'est pas si clair. Et alors il y a un certain nombre d'auteurs qui ont affronté ce problème. Heinlein a affronté ce problème, Egan affronte ce problème. Mais ce sont des problèmes pas simples et il a fallu avoir le cran de s'avancer et ça a pris du temps. Et je m'arrête là, promis.
Promis. Mais comment rebondir après ce que tu as dit? En vulgarisant et en parlant de revue, mais de fait, je pensais à juste une petite chose, le fait que la vulgarisation scientifique et l'accès aux technologies qui sont de plus en plus avancées pour l'humain, est-ce que ça le repousse, enfin, ça limite le champ de perception de la science-fiction, ça le bride, mais est-ce que ça ne développe pas plus, plus également dans le sens où maintenant qu'on a beaucoup d'avancées scientifiques, les gens deviennent de plus en plus pointus, les idées deviennent de plus en plus abstraites par rapport à ce qu'on peut faire en science-fiction.
Je ne sais pas si les choses se posent comme ça. En tout cas, je pense que la difficulté de recevoir une idée n'est pas liée à sa complexité. Il y a effectivement une complexité. Quand une idée est très technique, ben, elle est très technique, il faut se donner les moyens. On parlait dans la table ronde précédente de la croix copernicienne. Est-ce que le soleil tourne autour de la Terre ou est-ce que la Terre tourne autour du soleil? C'est d'une simplicité biblique. Un enfant de 4 ans peut se poser cette question et peut comprendre la réponse à cette question. Il n'y a pas de difficulté technique. Il y a eu un obstacle épistémologique terrible. Il y a eu des générations entières qui, à quelques exceptions près, ont été incapables de franchir ce pas et de se poser cette question-là. Donc il y a des questions qui sont affreusement difficile et affreusement dont la difficulté est liée à un contexte paradigmatique, à l'histoire des idées. Là, pour le coup, il y a plusieurs techniques de vulgarisation. On peut y aller de façon brutale et passer au tableau, faire une démonstration, c'est ce qu'a pu faire Kepler dans un certain nombre de textes. Ou on peut essayer de contourner la chose. La fiction est une façon de contourner les choses. Et la science-fiction, le même Kepler a écrit le Somnium pour jouer ce jeu-là et pour essayer de faire sentir l'enjeu de la querelle copernicienne au lecteur de l'époque. La science-fiction peut être une façon, non pas tant de vulgariser au sens de présenter de façon simple des idées, mais de faire un pas de côté et de présenter d'une façon différente des idées. Quand la complexité est vraiment intrinsèque, la vulgarisation fonctionne mieux ou l'enseignement fonctionne mieux parce qu'il n'y a pas le choix. Pour comprendre, il faut se donner les moyens de comprendre. Quand, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit, la difficulté est liée simplement à l'incapacité de prendre les choses par le bon bout, à ce moment-là, l'artiste, le narrateur, l'auteur de science-fiction peuvent apporter cette capacité à faire un pas de côté et contribuer à la transmission des idées.
Mais il me semble que ce qu'on appelle l'émerveillement scientifique, c'est très lié à ce sentiment d'étrangeté, de vertige, de doute, de déstabilisation. Et si vous m'autorisez à dire quelque chose d'un peu personnel, moi j'ai eu la chance de découvrir la science-fiction extrêmement tôt dans ma vie, mais vraiment très très tôt. J'ai dû commencer à lire, j'avais lu pas mal de romans de science-fiction avant d'avoir 10 ans, et je suis absolument persuadée que c'est ça qui m'a donné le goût de me lancer dans une carrière scientifique. Et c'est pas pour la science elle-même, c'est parce que c'était la seule manière d'envisager les choses qui donnait une liberté totale par le fait qu'elle s'autorisait à tout remettre en question. On avait le droit de douter de tout. J'étais entourée, j'étais pas spécialement malheureuse, mais j'étais entourée d'une famille qui, comme beaucoup de gens autour de nous, est sûre d'un tas de choses. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien, il y a ça marche comme ça, on doit faire comme ça dans telles circonstances. On est envahi de certitudes. Et ce qui était extrêmement rafraîchissant dans la science comme dans la science-fiction, c'était, enfin je l'ai pris comme ça, c'est qu'on avait le droit de tout remettre en doute et de ne pas accepter ce que le bon sens vous délivrait comme quelque chose d'incontestable. On avait le droit de dire oui, ça a l'air d'être comme ça, oui, bah, le soleil il a l'air de tourner autour de la Terre, d'ailleurs je le vois bien, il arrive là et puis on le voit monter, il passe de l'autre côté, je vois même pas pourquoi tu discutes. Ben si, on a le droit de discuter. Et la science-fiction donnait des armes pour avoir le droit de discuter les évidences. Et c'était une forme de liberté extraordinaire.
Je pense que c'est une bonne conclusion à cette table ronde. Je voulais demander si le public avait des questions, par hasard.
Moi, je voudrais lancer un appel, du coup, puisque je suis là. J'ai l'impression que la revue, une revue de science-fiction grand public, qui mêlerait vraiment la science-fiction et la science. La science-fiction peut donner des éclairages vraiment extrêmement pertinents sur la science. Je crois que c'est Robert Charles Wilson qui disait ce matin qu'elle pouvait transformer des questions scientifiques en questions philosophiques. Enfin, c'est vraiment, bon, on le sait tous, hein, on en est tous persuadés, c'est une ouverture exceptionnelle pour l'esprit et pour la vulgarisation de la science et de la connaissance en général. Et la grande revue scientifique de science-fiction n'existe pas encore, à mon sens. Donc, je voulais dire que si Pierre Berger était dans la salle, ou Mathieu Pigas, ou un autre mécène des médias, qu'il nous contacte et puis on essaiera de faire quelque chose.
Bonsoir. Bonsoir. Je veux dire que c'est le genre de choses qu'on a essayé. Et le problème, c'est que ça s'est planté grand format. J'ai essayé deux choses. Un temps, j'étais, disons, une espèce d'acteur en chef collégial d'une revue qui s'appelait Bientôt, qui a dû
Est-ce
tenir en tout 7
numéros. Est-ce que tout le monde connaît Gérard
numéros.
Klein, qui ne s'est pas
oui,
présenté
Oui, vous me connaissez tous, évidemment.
Gérard Klein, directeur de la collection Ailleurs et Demain.
Donc, l'idée était bien avec cette revue qui, pour des raisons différentes, n'a pas marché. Mais enfin, c'était de réunir prospective, une de mes casquettes, science-fiction et science, dont j'aurais aimé que ce soit une de mes casquettes, mais ça ne l'est pas tout à fait, pas exactement. Bon, ça n'a pas marché. Il ne faut pas se raconter l'histoire. J'ai d'autre part, très souvent, essayé d'approcher les très bonnes revues scientifiques françaises. Je pense à La Recherche, dont je connais très bien celui qui a été un de ses, pas exactement quel était son rôle, Pierre Papon, enfin l'ancien directeur du CNRS. Pour la science, c'était Hervé Tiss, qui était également un vieil ami. Bon, maintenant, il fait autre chose, il s'occupe surtout de cuisine, si j'ai bien compris. Les gens de Science et Vie, je ne les ai jamais directement contactés. Mais en tout cas, ces contacts-là n'ont jamais abouti, n'ont jamais donné grand-chose. Ils font une petite place à la science-fiction. Alors, il y a eu un temps où, comment il s'appelle, là, le banquier
Pébro.
Oui, Michel. Michel
oui, c'est Pébro qu'il fallait aller voir.
Que j'ai connu aussi, avait une rubrique dans La Recherche. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, ça s'est arrêté. Ou il a eu, je crois qu'il a eu d'autres soucis, enfin, il a eu d'autres responsabilités.
Il y a une nouvelle formule de la recherche qui excluait ce type de rubrique.
Bon. Donc, ça répond à votre question. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Ou bien, du côté des revues scientifiques, il y a eu un refus très poli, très courtois, je m'empresse de l'ajouter. Ou bien, du côté du public, on n'a pas rencontré le succès que vous attendiez.
Il faut réessayer.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci. Ma question, c'est au sujet de cette histoire de falsifiabilité de la science et de toujours la remettre en question. Je suppose que c'est évident à vos yeux que ça ne peut être remis en question que par une théorie ou des idées elles-mêmes falsifiables, ce qui est le cas dans une démarche scientifique, hein, mais pas forcément dans la SF. Et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de responsabilité quand même des auteurs à essayer de trouver des théories, des idées pour leur justification qui soient elles-mêmes plutôt scientifiques pour éviter de mettre dans les esprits des gens que finalement tout peut être mis en question sans se poser de questions et aboutir à des dérives comme ce qu'on peut voir de nos jours étudié dans des écoles américaines sur l'évolution des idées de ce genre-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En tant qu'auteur de SF, on est obligé à rien déjà. Donc, c'est à la base, on écrit de la fiction, donc. Ce qu'on livre au lecteur, c'est une fiction. Donc, à lui de faire tout le travail, mais il n'y a aucune. La SF et la science, c'est deux univers qui se rencontrent, mais à aucun niveau, un univers n'est tributaire de l'autre. Voilà.
Et puis, si on s'en tient à l'état actuel de la science, on va décrire. En gros, et même pas complètement, l'univers qui nous entoure, mais on aura un petit peu de mal à amener quelque chose de neuf. Il faut.
Et puis il ne faut pas oublier que la SF, ça va de 2001 à Star Wars aussi. Hein. C'est, je veux dire, on n'est pas. On parle d'une catégorie bien spécifique de la science-fiction qui est la hard science, et exclusivement d'elle, en fait, dans ce.
Je suis pas sûre que dans les revues dont on a parlé, il n'y ait que de la hard science. En tout cas,
l'espace, tiens, ouais. C'est de la hard science quand même.
Oui, dans Comment ça marche, Claude Eken y a publié plus régulièrement que moi, mais il s'appuie sur une solide culture scientifique, mais sans faire de la hard science au sens où ce serait inaccessible à un public qui ne serait pas expert du domaine, en tout cas.
Je vais, en deux mots, je vais faire la même réponse que Laurent. Autant un scientifique est un membre de la communauté scientifique et a des responsabilités à l'égard de sa communauté, le plus souvent, en France en tout cas, il est fonctionnaire, il a aussi des responsabilités vis-à-vis du public. Et ça fait partie du job que de communiquer, que de participer à l'évaluation des travaux des autres. Il y a un travail d'autocritique de la science et un travail de communication qui fait partie du travail du scientifique et qui est de la responsabilité du scientifique. L'auteur de science-fiction n'a de responsabilité qu'à l'égard de ses lecteurs, fait rigoureusement ce qu'il veut, et de son éditeur éventuellement. Mais non, il n'a même pas de responsabilité à l'égard de l'éditeur. Au pire, l'éditeur refuse le texte. Mais la communauté scientifique n'est pas de même nature que la communauté de science-fiction. Il existe, les deux communautés existent. La communauté de science-fiction est une communauté amicale de gens qui ont des intérêts communs, mais qui peuvent y arriver et en partir sans aucune formalité, sans aucun diplôme. La communauté scientifique, effectivement, est une communauté beaucoup plus structurée, avec des responsabilités des uns et des autres, et avec des tickets d'entrée qui ne sont pas vraiment donnés. Pour avoir le droit d'être pris au sérieux dans la science, il faut être passé par un laboratoire, faire des études, éventuellement être allé jusqu'à un doctorat. Ce sont des procédures différentes et des normes différentes.
Imaginer que dans une revue de vulgarisation scientifique, il y ait par exemple une chronique littéraire de livres de SF qui soit dont un des critères, ce serait justement la validité ou la fécondité de l'idée scientifique qui nourrit le livre, ce qui n'a jamais été fait pour le moment.
Oui, je plains l'éditeur qui aurait à remplir en sommaire tous les mois.
Oui, sans doute pas. Oui.
Du coup, il est l'heure. On nous demande de quitter la scène. Je vous remercie tous d'être venus pour cette conférence et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de festival.